On est à Tomioka, un petit village au bord de mer, à 10 km au sud de la centrale de Fukushima Daiichi et ses radiations. Un vieux restaurant de bord de route. Et si je m'approche, tout est abandonné. Mais tout a été laissé en l'état. C'est-à-dire que je vois des feuilles mortes qui se sont glissées sous la porte. Le petit tapis roulant où normalement défilent les sushis. Et cette sensation très très étrange du temps qui s'est complètement figé. Là je vois quelques tasses, une assiette et des baguettes. Et un bol et une serviette. Comme si les gens l'avaient posé et étaient partis. Et rien n'avait bougé depuis maintenant plus de 9 ans. Et le pire, c'est que ce restaurant de sushi, il a un nom presque prémédité.
Et oui, puisqu'il s'appelle Atomu Sushi.
Le sushi de l'atome.
Grillé, brûlé par le soleil et la sécheresse.
We're fucked.
Après.
Journal de bord d'un monde qui fond.
The whole place is burning.
Épisode 10. Japon, Fukushima. 9 ans après. Retour à la normale.
D'un monde à l'autre.
Guy Vanctil. Sur France Inter.
Avec ceux qui refusent de se laisser couler.
Reportage sur les traces du changement climatique.
Bonjour à toutes et à tous. L'avantage quand on travaille à la radio, c'est qu'on peut user et abuser des homophonies de la langue française. Comme aujourd'hui, avec l'étape à Fukushima de notre tour du monde d'avant. Quand les autorités japonaises nous enjoignent de croire que la situation dans la zone contaminée par la catastrophe nucléaire de 2011 revient à la normale, on peut pas s'empêcher d'entendre « retour à la normale ». Car si les travaux de décontamination dureront plus de 40 ans, les autorités ont annoncé le 3 juin dernier la fin de la zone d'exclusion de 340 km autour de la centrale, où les routes et villages autrefois condamnés sont rouverts les uns après les autres. Sauf que des villages comme Iitate, à une cinquantaine de kilomètres de là, restent encore désespérément vides. Pourquoi je vous parle du village d'Iitate ? C'est parce qu'en avril 2011, un mois jour pour jour après le tremblement de terre et le tsunami qui ont fait 20 000 disparus et provoqué l'explosion de la centrale de Fukushima Daiichi, nous y étions avec l'ami Daniel Mermet et son émission « Là-bas si j'y suis ». Le jour même où le village était officiellement évacué par les autorités à cause des radiations. Un moment de radio qu'on va réentendre, spécialement aujourd'hui, où pour nous aussi, les idées de danger invisible, de contamination et de confinement résonnent maintenant d'un écho étrangement familier. Alors on est retourné voir comment on vivait autour de Fukushima avec la sociologue Cécile Asanuma-Brice du CNRS Tokyo qui depuis 9 ans retourne dans la zone tous les mois pour suivre comment l'accident nucléaire se vit au long cours. Et on va y rencontrer Nobuyoshi Ito, un vaillant monsieur qui parcourt la région avec compteur GGR et dosimètre en bandoulière et qui ne se fait décidément pas à cette nouvelle réalité. Alors jusqu'à 18h sur France Inter, je reviens du monde d'avant à Fukushima, apprendre à vivre avec les radiations au quotidien. Tu parles d'une vie normale. Retour à la normale.
We will soon make a brief stop at Fukushima.
Les autorités considèrent que dans la zone à 30 km de la centrale de Fukushima, la radioactivité est revenue à un niveau acceptable.
Retour à la normale.
Peut-être un peu prématuré.
Je reviens du monde d'avant sur France Inter.
On est ici dans la municipalité d'Itate,
où les habitants peuvent revivre presque normalement.
C'est là même on avait assisté à cette conférence du maire le 11 avril
2011, annonçant l'évacuation de la ville à tous les paysans et à tous les entrepreneurs. La ville était déclarée zone d'évacuation temporaire du fait des retombées radioactives de la centrale de Fukushima qui est à une quarantaine de kilomètres d'ici.
Oui, une quarantaine de kilomètres.
Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril, juste un mois après le tremblement de terre. Mais l'accident de centrale a provoqué une évacuation aux alentours de 20 km. Mais la zone d'évacuation s'est agrandie petit à petit. Nous avons appris que notre eau de robinet n'est plus potable, que notre terre était contaminée. J'ai beaucoup de peine à vous annoncer. Mais l'enjeu est énorme, l'enjeu économique et de santé, de l'avenir de nos enfants. Et là-dessus, le gouvernement a annoncé l'évacuation planifiée. C'est un nouveau terme que je vais vous expliquer maintenant.
C'est impressionnant de voir que les caméras qui sont là, elles sont en train de détourner le regard du maire qui fait son discours pour saisir le visage des agriculteurs qui sont en train d'apprendre qui est. Leur monde s'effondre.
On peut rester que pendant 8 heures par jour dans ce village. Ici.
Ouais. On assiste à la fin d'un village.
Alors il y a eu des zones, une zone qui est plus au sud du village, qui reste encore fermée au retour. Tout le restant du village a été réouvert. Sur un peu plus de 6000 habitants avant la catastrophe. La mairie estime qu'à peu près 1000 personnes sont rentrées. Itatemura, c'était un exemple de village écologique, c'est ce qu'on appelait un éco-village. Et donc les gens y venaient pour bénéficier des bienfaits de la nature.
Et c'est vrai, là je vous coupe deux secondes, Cécile Assanomorus, c'est vraiment très joli comme paysage. C'est des petites vallées qui s'enchaînent avec des montagnes couvertes d'arbres et... C'est impressionnant de voir comment tous les deux virages, on voit des gros amoncellements de sacs noirs ou alors comme ici, des espèces de monticules recouverts de bâches vertes. C'est la terre radioactive qui a été grattée sur 5 cm dans toute la région autour des maisons. Et c'est des millions et des millions de tonnes qui sont comme ça accumulées.
Toute la politique de décontamination qui fonctionne en fait ponctuellement autour des habitations, en fait elle n'a pas grand sens. Les trois quarts du village, ce sont des forêts qui, elles, ne pourront pas être décontaminées.
Et en même temps, je regarde discrètement le compteur GGR qui, pour l'instant, ne bouge pas trop, ça va, 0,25.
Là, on est dans des taux qui sont assez bas. On a pour habitude d'estimer la moyenne japonaise avant l'accident à 0,04 microsievert par heure. Donc même si c'est considérablement plus, c'est quand même des taux qu'on estime être acceptables. Donc là, on est dans la voiture. Donc ce qu'on peut mesurer à l'extérieur est bien plus important.
On est toujours à 0,40 maintenant.
Il y a des singes là-bas.
Ah ouais, des singes au bord de la route.
Un petit peu partout.
Toute une troupe de singes, là, avec... leurs fesses roses et leur absence de queue, qui nous regardent, qui prospèrent dans un environnement radioactif. 0,42.
Donc ces chiffres rythment un peu le paysage. Et malheureusement, ce que l'on peut constater, c'est qu'ils ont tendance à augmenter plus le paysage est naturel. Et là où la main de l'homme n'accède plus, eh bien les chiffres s'envolent.
Le gouvernement vient de décréter que la zone était redevenue habitable. Mais pour rassurer ceux qui sont revenus, la municipalité les a tous équipés.
Ça, c'est le distributeur de repas. On est dans le restaurant de Itate, c'est ça ?
Donc c'est une chaîne de restauration qui a pour but de vendre des produits locaux dans la plupart des sites touristiques. Et alors ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que cette station accueille, en plus du restaurant du village, une station de mesure de la contamination de l'alimentation.
Et voilà, il y a un petit écran avec un ordinateur et je vois du tofu, du chou, de la tomate, de l'aubergine, une vache, un thon, des pâtes. C'est vraiment la mesure de radioactivité en libre service.
Ouais.
Ito-san, expliquez-moi comment ça marche.
Ce n'est pas une mesure extrêmement précise, mais ce qu'on propose ici, c'est un système qui permet à tout un chacun de mesurer les radiations et de le faire lui-même.
Alors là, vous avez appuyé sur le bouton shiitake, ça c'est des petits champignons japonais.
Donc
la première étape, c'est de choisir quel type de champignon et ensuite où ce champignon a été cueilli.
Ah, c'est selon les différentes zones.
Ensuite, il faut choisir si c'est une zone qui a été décontaminée, non décontaminée ou si on ne sait pas.
Ah oui, radioactif, plus radioactif ou ne sait pas.
Donc, placer les aliments dans un sac plastique, fermé.
C'est une espèce de boîte métallique et on voit à l'intérieur, il y a comme une mire où il faut placer en dessous et puis après ça se referme. Et donc Ito-san, ça c'est voilà comment on vit 9 ans après la catastrophe nucléaire. Chacun vient mesurer sa radioactivité de ses produits alimentaires. Comme moi, je regarde les calories de mon yaourt. Vous, vous regardez si c'est radioactif ou pas.
Oui, c'est un processus qui ne prend que 10 minutes, donc c'est assez facile à faire et les gens viennent donc ici pour mesurer les radiations.
Et est-ce que vous l'avez déjà fait biper, ce détecteur de radioactivité des aliments?
Quand on arrive au mois de mars, c'est la saison de la cueillette des légumes sauvages dans les zones de montagne et là, on voit beaucoup de niveaux élevés dans ces aliments. On ne le voit pas ici, mais dans certains cas, on atteint même des niveaux de l'ordre de 50 000, 60 000 becquerels par kilo.
Et ça, c'est des seuils dangereux?
Oui, tout à fait. Le seuil maximum, selon les normes nationales, est de 100 becquerels par kilo.
Et là, je vois 20 500 becquerels par kilo. Et là, pendant ce temps-là, ça bip, parce que comme on est dans la petite cantine du village de Itate, eh ben, c'est l'heure d'aller manger. Ito-san, est-ce que c'est la peine que je passe mon bol de soupe dans le détecteur radioactif ou je peux y aller tranquille?
Non, il
n'y a aucun souci à se faire.
Bon. Alors, bon appétit.
およそ 300 メートル先左方向です。C'est
une route qu'on appelle la route Jōban qui a la particularité de passer notamment devant la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi qui est restée longtemps fermée qui lorsqu'elle a été réouverte a été une espèce de symbole de la réouverture de la zone d'évacuation puisqu'elle la traverse du nord au sud. Alors le moteur de cette nouvelle impulsion vers la réouverture, c'est les Jeux Olympiques qui ont servi un petit peu de fleuron pour réouvrir la quasi-totalité de la zone, décision qui a été prise la semaine passée.
Et là, pendant ce temps-là, on vient de passer devant un panneau électrique et il y avait écrit 01-2,5.
Voilà, c'est ça. Donc, quand on traverse cette route-là, on est voué à subir des taux d'exposition qui peuvent aller de 0,1 microsievert par heure à 2,5 microsievert par heure. Voilà, c'est comme ça. Donc, en fait, il n'y a rien de caché. Toutes les informations sont affichées. Et le but, et ça aussi, ça fait partie de la politique de communication, c'est en fait de faire accepter la situation et de faire en sorte que les gens deviennent co-gestionnaires de toute cette histoire, en tous les cas, en les contraignant à rentrer, puisqu'il y a une partie d'entre eux que l'on contraint à rentrer. À partir du moment où le gouvernement prend la décision de rouvrir une commune, eh bien, il va couper les subsides qu'il donnait jusqu'à présent aux anciens habitants de la commune pour pouvoir habiter ailleurs.
C'est-à-dire que maintenant, vous n'êtes plus des réfugiés, on vous coupe les aides de réfugiés, vous retournez chez vous. C'est bon, tout est réglé.
Voilà, c'est ça. On impose aux gens de revenir dans ces zones. Finalement, il y a très très peu de gens qui rentrent dans les zones qui sont réouvertes. Et plus les communes sont proches de la centrale, et moins il y a de gens qui y rentrent. Et évidemment, les familles avec enfants, elles, ont recommencé leur vie ailleurs. De toute façon, sur cette route, on n'a pas le droit de s'arrêter. Là, on approche du tronçon qui vient d'être ouvert, donc... j'ai pas de mesure.
Alors je prends là votre compteur et là il dit 0,23 microsievert.
On va laisser le temps de calculer.
Là ça peut tout de suite passer à 0,71. Et là, le panneau au bord de la route indique 2,5 microsieverts de l'heure.
Là, on commence à rentrer, oui, dans des zones où le niveau est assez considérable.
Mais là, les ouvriers, ils sont en train de bosser à côté au bord de la route.
Avec juste un petit masque sur le visage, sans combinaison de protection. Eux, ils sont exposés à des doses qui sont assez conséquentes.
À 0,3 microsieverts par heure, c'est le nouveau panneau. Comme ça, il y a les panneaux autoroutiers qui donnent le nombre de kilomètres et puis il y a les panneaux qui donnent l'évolution de la radioactivité.
Comment photographier ce qui ne se voit pas? Comment témoigner de la catastrophe de Fukushima?
Je m'appelle Masamichi Kagaya, je suis photographe et je travaille à rendre visible la pollution radioactive.
On sait, c'est ma responsabilité de photographe.
Il travaille en collaboration avec un professeur d'université pour révéler ces traces de contamination invisible à l'œil nu.
Je m'appelle Satoshi Mori, je suis professeur honoraire à l'université de Tokyo.
Et c'est là où je vous retrouve, vous, professeur Satoshi Mori, qui êtes botaniste, et vous, Masamichi Kagaya, qui êtes photoreporter, parce que tous les deux, vous vous êtes mis en tête, d'après la catastrophe de Fukushima, de trouver le moyen de rendre visible la réalité de la contamination de toute cette partie du Japon.
La plus grande valeur de cette méthode, de ces images, c'est qu'elle montre la diffusion des particules radioactives. Et c'est la seule technique qu'on a de le faire en ce moment.
C'est-à-dire l'autoradiographie, cette technique que vous avez établie tous les deux, l'impression d'un échantillon sur un film sensible, et après vous les avez numérisé en trois dimensions, et c'est ce qu'on voit défiler devant nos yeux sur cet écran. C'est absolument saisissant parce que on reconnaît des plantes, on reconnaît des fleurs, on reconnaît des objets de la vie quotidienne. Simplement, on voit sur ces silhouettes des zones blanches, d'un blanc éclatant, par exemple, là, ces bottes qu'on voit. Il y a des zones qui sont d'un éclat brillant, lumineux. Et ces points lumineux, c'est là, c'est ce qui correspond à la plus forte quantité de radioactivité qui a été accumulée.
Là, ce qu'on vient de voir, c'est un serpent, et donc on voit qu'il ne reste que quelques particules blanches, donc qui ne se sont pas dissoutes, et tout le reste qui est gris, comme on le voit, ce sont les particules qui se sont dissoutes et qui sont allées s'immiscer à travers tout le corps du serpent dans ses muscles.
L'angoisse de la radioactivité invisible, impalpable, et là, elle nous saute aux yeux, et c'est assez anxiogène, je dois dire, de voir ça, en fait. Vous avez dû prendre des précautions particulières, j'imagine, pour aller dans cette zone, pour recueillir tous ces spécimens. Là, je vois, il y a un soutien-gorge, des animaux, des silhouettes.
Oui, on a porté des combinaisons pour nous protéger et pour empêcher tout contact direct avec les particules radioactives. C'était des combinaisons qu'on n'utilisait qu'une fois. C'est exactement les mêmes habits de protection qu'on porte actuellement pour se protéger du coronavirus.
C'est des traces de pas qu'on voit, par exemple. C'est quoi?
Oui, c'est la semelle intérieure de chaussures que j'ai récoltée dans des zones comme Namie et Futaba, donc proche de la centrale de Fukushima.
Et on voit que c'est une semelle en noir et blanc, et on voit comme des constellations de points blancs.
C'est qu'on nous dit que Fukushima n'est plus contaminé maintenant, mais c'est faux. C'est seulement les routes qu'on a décontaminées, c'est le terrain qu'on a déblayé sur 20 mètres autour des routes, mais tout le reste, en particulier les forêts, sont toujours pollués. Et donc cette écrasante majorité du césium qui se retrouve fixée dans le sol continue à pénétrer les arbres, les plantes dans les forêts, et c'est ça qui fait que la nature à cet endroit continue d'être contaminée.
Le gouvernement qui dit que la situation est réglée et qui essaye de faire retourner la population, il le fait pour des raisons politiques. Mais en réalité, la situation n'est absolument pas réglée du tout.
Et on pourra pendant longtemps encore prendre des photos, des petites feuilles, des petits insectes et de tous les objets ramassés dans la zone de Fukushima Daiichi et y voir avec votre méthode d'autoradiographe les petits points blancs des particules radioactives qui sont ancrées durablement dans votre paysage.
Oui, tout à fait. La préfecture de Fukushima, c'est 70% de forêt. Et vous le verrez tout de suite, si vous vous rendez à l'intérieur de la forêt avec un compteur GGR,
Vous allez l'entendre, votre compteur va crépiter.
Au pied des montagnes, la radioactivité se concentre.
Je reviens du monde d'avant.
Les appareils de mesure de radioactivité sont là pour rassurer.
Apprendre à vivre avec la radioactivité. Sur France Inter.
Donc là, on arrive devant un poste de mesure de la contamination qui montre un niveau à 0,53 microsieverts par heure.
C'est au milieu des champs, c'est au milieu de la campagne, sur un petit chemin, un panneau. Un poteau comme une petite borne au milieu de la campagne. Et là, ça dit 0,53 microsieverts. Il y a une petite lumière qui clignote. Et Ito-san, lui, parce qu'il est toujours équipé, il prend son compteur GGR.
Sur ce point précis, on est à 0,64 microsieverts par heure.
Ça, c'est en dessous de l'indicateur qui officiellement indique 0,53. Si on fait un mètre, on fait un pas. Et qu'est-ce qu'on voit ? Là, on est à 0,7.
On est à 0,72 microsieverts par heure.
Ouais.
Et là, rien qu'en s'éloignant d'un mètre de l'appareil de mesure, on a une différence déjà de l'ordre de 40%.
Et là, vous faites quelques pas, vous marchez dans l'herbe. Et là, on est à 0,80. 0,86.
Et là, donc, on est déjà dans une différence de 50%. Donc cet appareil, l'appareil officiel, mesure à 1 mètre du sol. Maintenant, ce qui se passe, si on mesure à 1 cm du sol, on est à 2,02 microsieverts par heure. 4 fois plus que ce qu'indique le poste de mesure.
C'est-à-dire que ces signaux-là qui sont indiqués en hauteur, à la vue et au-dessus de tous, pour rassurer en fait, pour montrer, regardez, on peut très bien vivre, ils sont complètement biaisés.
Plus qu'être biaisé, ce qu'on voit ici, ce sont les chiffres que les autorités prétendent vouloir montrer.
Or, ce que vous nous montrez, c'est qu'il suffit de se mettre à genoux pour prendre 4 fois plus de radioactivité.
Oui, tout à fait. Vous savez, la Terre qui est ici sous nos pieds, avant l'accident, on aurait trouvé des niveaux de radiation de l'ordre de 10 à 20 becquerels par kilo. Cette même terre, maintenant après l'accident, elle contient de l'ordre de 20 000 à 30 000 becquerels. Et donc, pour que cette terre revienne au niveau d'avant l'accident nucléaire, il faudra 300 ans.
Simplement, on a fait revenir les gens après 8 ans.
Oui, exactement. Le gouvernement a fait revenir les gens dans un lieu aussi dangereux.
Bon, on ne va pas rester ici, hein.
La décontamination n'est pas terminée.
Yon 131, fait jour.
Et le gouvernement souhaite que les habitants aient regagné leur maison d'ici 2020.
Triton 85, 20 ans.
Et ce, quel que soit le niveau de radiation.
Carbone 14,
11 400 ans. On a ses chaussures à l'extérieur. Un cabanon au milieu de la forêt. C'est la maison de Monsieur Ito. Il y a un poêle. Et une table périodique des éléments.
429,
34, curium, einsteinium,
uranium 235,
tout un tas de matériel, de pipettes, d'éprouvettes. Et dites-moi, Ito-san, c'est quoi la machine là-bas, là, qui est près de la fenêtre ?
Oh.
それで結果的に万一事故が起きた時に元に戻す手立てはありません。
La réalité d'un accident nucléaire, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière.
On ne peut pas revenir en arrière après un accident nucléaire. C'est comme si le monde d'avant était parti pour durer, irréductible au monde d'après. Voilà la leçon que répète M. Ito dans cette vie anormale, alors que les autorités prônent le retour à la normale. Ito-san nous a montré comment on doit maintenant mesurer la contamination des produits alimentaires, comment les compteurs officiels travestissent délibérément la réalité de la radioactivité, nous a donc conduit chez lui, dans la cabane qu'il occupe au milieu des bois de cette région montagneuse. Il fait partie des rares habitants, pas plus de 20%, qui sont revenus dans cette zone désertée. Mais lui, s'il est rentré, c'est pas par renoncement, mais au contraire pour dénoncer. Il arpente jour après jour cette campagne pour documenter les niveaux de radiation. Véritable lanceur d'alerte, il a chez lui toute une flopée de documents, de prélèvements et d'instruments de mesure de la radioactivité.
C'est un appareil similaire à celui qu'on avait vu tout à l'heure au restaurant, à savoir un appareil pour mesurer les radiations à l'intérieur des aliments.
Vous avez ça chez vous ?
Oui, c'est un appareil qui s'appelle un NAI Scintillation Counter. Et c'est un appareil fabriqué en Ukraine.
Oui, ils ont une certaine expérience de ce genre d'accessoires. Alors, on continue. Dans votre maison atelier.
Je m'appelle Nobuyoshi Ito. Je suis né en 1943 et j'ai 76 ans. L'entreprise pour laquelle je travaillais fabriquait les moteurs diesel de secours pour la centrale de Fukushima Daiichi.
Vous voulez dire, Ito-san, ces mêmes moteurs de secours qui, après la panne provoquée par le tremblement de terre de mars 2011 et le tsunami, qui ont été noyés et qui n'ont pas fonctionné.
Oui, et donc après l'accident, le gouvernement a imposé une évacuation qu'ils ont appelée une évacuation planifiée et demandé à l'ensemble de la population de partir.
Ici à Itate, mais comme 160 000 personnes dans toute la région.
Ce qui était différent à Itate, c'est que juste après l'accident, il ne s'est rien passé. Ce n'est qu'un mois après l'accident que le gouvernement a imposé cette évacuation planifiée et donné un mois à la population pour partir.
C'était le 11 avril 2011.
À ce moment-là, quand on a ordonné l'évacuation, il n'y avait pas de données fiables, précises sur les niveaux de radiation. On ne nous avait pas informés de ces données. Regardez cet article du 21 mars 2011. On voit le professeur Yamashita déclarer dans le journal de Fukushima « Il n'y a pas de souci à se faire pour la santé ». Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour même, ici à Itate, c'est qu'on a détecté de l'iode radioactif dans l'eau courante et on a commencé d'urgence à distribuer de l'eau en bouteille. Mais c'est scandaleux. Le 21 mars, vous vous rendez compte? Et vous voyez ici ce que moi j'ai commencé à crier haut et fort. C'est le gouvernement qui minimise dès le départ les conséquences de la catastrophe.
Et pourtant, vous êtes revenu habiter ici, toute la journée, par monts et par vaux, en train de mesurer. C'est pour ça là, que vous avez en permanence sur vous, là, dans votre poche de votre blouson, un dosimètre qui apparaît, un appareil à mesurer l'accumulation de radioactivité.
Oui, parce qu'il faut enregistrer cette réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en mesurant les choses de loin. Et mon travail consiste à dire non seulement qu'il ne faut pas que les jeunes reviennent ici, mais même pour ceux qui sont là, pour ces personnes âgées, il faut faire en sorte de minimiser les risques de contamination. Et c'est pour ça que je milite.
Mais dites-moi, vous mettez clairement votre santé en danger avec tout ça, avec cette exposition continue. Vous en avez une idée justement de la quantité de radioactivité que vous avez encaissée, vous ?
曖昧だからね。
Oui.
L'exposition
en radiation que je subis chaque année, c'est de l'ordre de 2,2 à 2,7 millisieverts par an.
Et là, vous sortez une espèce de dossier qui ressemble à un journal.
C'est un document intitulé « Connaissons mieux les radiations » et qui a été fait par le gouvernement.
Avec des illustrations, des belles couleurs, de la belle titraille pour expliquer aux Japonais à quoi ils s'exposent ou pas.
Même si mon exposition aux radiations crée chez moi des cellules cancéreuses, le temps que ces cellules se développent, ça prendrait une trentaine d'années. Et j'ai plus de 70 ans maintenant, et ça voudrait dire que je serais touché par le cancer au-delà de l'âge de 100 ans.
Il
y a environ 1200 personnes qui sont revenues ici à Itate, et ce que vous voyez ici, c'est la répartition des âges.
Et ce qu'on voit, c'est surtout des 60, 70, 80, 90 ans. Il y a, pour ainsi dire, pas d'enfants, presque pas d'adultes, et votre région, c'est complètement déserté. Il n'y a plus que les vieux qui vivent ici, c'est les seuls qui aient accepté de revenir.
Et maintenant, il n'y a que 30 enfants ici à Itate. Les autorités à Itate ont dépensé de l'ordre de 3,6 milliards d'euros pour décontaminer la municipalité. Et la décontamination n'a eu lieu que sur 15% de la surface du territoire. Et la question c'est, peut-on en toute sécurité vivre dans un tel village ?
À
partir de mars, avril, l'intégralité du village va verdir et dans tout ce vert qu'on verra, il y aura du césium.
Vert césium, une nouvelle couleur, c'est ça ?
Ça, c'est la réalité.
Je reviens du monde d'avant. Fukushima, 9 ans après, retour à la normale. Sur France Inter.
On va où là, Cécile, à Sanoma-Brice?
Donc là, on va à Tomioka, dans un centre qui vient d'être ouvert, centre de revitalisation de Fukushima, qui a pour but de présenter l'accident et ses suites.
C'est-à-dire que c'est la version officielle de l'histoire présentée par TEPCO pour les habitants, comme si elle était terminée.
C'est ça. Et alors l'ironie du sort, bien que ce ne soit pas un hasard, veut qu'ils aient installé cette exposition dans un équipement qui était déjà celui qui vantait les bienfaits du nucléaire avant la catastrophe.
Et là, on voit le signe TEPCO.
Donc il est marqué « Mirae to tsunagare, hirogare, Tomiokacho ». On va essayer d'élargir ce futur, et ça va être le rôle de la ville de Tomioka.
L'avenir radieux, toujours.
Toujours plus radieux.
Arigato gozaimasu.
11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 vient de secouer le Japon.
2 minutes sans interruption.
Ce qui était tant redouté se produit finalement. Le bâtiment qui enveloppe le réacteur numéro 3 de la centrale de Fukushima est soufflé. Le monde entier a les yeux rivés sur Fukushima.
On est au centre d'archives de démantèlement de Fukushima, géré par TEPCO.
Voilà la brochure qu'on nous donne avant de faire la visite du TEPCO Decommissioning Archive Center. Ah, on nous amène dans une magnifique salle de projection. On s'installe là ?
Nous présentons nos sincères excuses aux habitants de la région de Fukushima pour tous les graves dommages que nous avons causés. Nous avons eu l'arrogance de trop croire en la sécurité de nos installations.
Ils avaient trop confiance en eux, c'est la raison principale qui a avancé pour la catastrophe de la centrale de Fukushima Daiichi. Et là, on a une vidéo qui nous explique un peu leur amende honorable sur pourquoi ça a échoué.
Nous mettons tout en œuvre pour pour assumer notre responsabilité, pour revitaliser Fukushima et pour sécuriser le démantèlement de la centrale.
Silence, des plaignants, indignation de Greenpeace. Le tribunal de Tokyo a jugé ces trois anciens hauts responsables de TEPCO non coupables des conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima.
L'État japonais et TEPCO ont déjà été sanctionnés à plusieurs reprises par la justice au civil. Mais à chaque fois, ils n'ont écopé que d'amendes symboliques.
Alors, continue la visite. Vachement interactif et ludique et tout ce qu'il faut. Simplement, il y a vraiment presque personne dans ce centre, quoi. C'est à moitié de désert.
Juste un point sur cette carte qui nous montre des bornes qui mesurent également l'environnement. Et ce que l'on peut voir, donc, c'est qu'à l'intérieur, en tous les cas autour, sur les pourtours de la centrale, on est à 0,6, 0,9, 1,2 au maximum. Ça descend même à 0,3 microsievert par heure. Et donc, on a des niveaux qui sont en fait inférieurs au niveau qu'on avait dans le village d'Itate. Alors ça, c'est assez ambigu de nous présenter ça comme ça, parce qu'il est évident que la centrale, elle est très régulièrement décontaminée, puisqu'il y a des gens qui travaillent, donc 4000 personnes, on l'a vu, qui travaillent en moyenne tous les jours. Et donc, il faut que ce soit le plus possible sécure pour les personnes qui y travaillent. Donc, on décontamine très, très régulièrement. Et les personnes qui viennent visiter ces sites et auxquels on montre qu'effectivement les taux ne sont pas si élevés que ça, partent de là en ayant une image d'un environnement qui est, ma foi, bon, un petit peu plus élevé qu'à l'ordinaire, mais pas tant que ça, et donc avec un a priori qui consisterait à penser que le reste de l'environnement est encore moins contaminé, puisque là on est au cœur de la centrale.
C'est-à-dire, si au cœur de la centrale il y a si peu de réactivité, cœur même de d'où sont émis ces radionucléides, alors dans la campagne environnante, pourquoi s'inquiéter à 30 km ou 40 km d'ici.
C'est ça.
Le noyau qui a fondu serait encore conservé dans une structure chargée de la protection de ce noyau, quelle qu'elle soit. Donc elle s'exprime avec des guillemets en disant « on peut croire, mais on n'a rien qui nous permet aujourd'hui de pouvoir confirmer cette information qu'il soit encore contenu dans
l'enceinte
de confinement. » On ne peut pas approcher cette partie du noyau, donc on ne peut pas avoir la preuve qu'il est encore dans l'enceinte de confinement.
Ouais. C'est une manière à peine détournée de reconnaître qu'en fait, il n'y est probablement plus, ou en tout cas, on ne sait pas, quoi. C'est les éléments de langage, ça s'appelle.
On voit les images qui ont été prises à l'intérieur du réacteur numéro 2.
C'est des images qui ont été prises au robot
pour donner une idée de comment c'est dans la centrale, vu que c'est un endroit où la plupart des gens ne peuvent pas accéder.
Pour montrer que TechPro déploie tous les efforts possibles et imaginables pour assurer notre sécurité à tous.
Alors, ce qu'on peut noter aussi, c'est que sur ces stands de présentation, on a des joysticks.
Des petites manettes de jeu, ouais.
Pour rendre tout ça un petit peu attirant également pour les enfants qui peuvent contrôler le robot.
Ça marche, je peux essayer ? Non, ça ne marche pas.
C'est juste une image.
Ah oui, d'accord. Moi, je pensais pouvoir utiliser le robot dans la centrale de Fukushima pour manipuler le matériau fissile qui a fondu. Ah, voilà. C'est présenté comme un jeu.
Voilà. C'est ça, on nous plonge dans le réacteur. C'est une partie du black tourisme, quelque part, qu'on nous propose de faire participer à cette aventure.
C'est ça, c'est le monde merveilleux du réacteur nucléaire de Fukushima, comme si vous y étiez. On se dit, c'est vraiment formidable, tous les efforts déployés, et toute cette ingéniosité pour faire face à cette regrettable catastrophe. Qui, nous dit TEPCO dans son langage, était évitable, ils ont eu un peu trop d'orgueil, un peu trop de confiance en eux, mais qu'on ne les y reprendrait plus et que maintenant ils savaient tirer les leçons de ces regrettables incidents.
Ils s'excusent. La manipulation, elle n'est pas dans le mensonge, elle est dans le fait qu'on donne une image extrêmement positive de quelque chose de très grave qui s'est passé, mais dont on a pris conscience que désormais on va pouvoir maîtriser, qu'on a parfaitement analysé et qu'on va donc pouvoir dépasser pour passer à la suite.
Voilà, maintenant vous commencez à reconnaître ce bruit.
c'est le bruit du compteur GGR portatif qui nous accompagne dans cette balade. En sortant tout juste du musée à la gloire de la revitalisation de cette région de Fukushima par la société TEPCO, à peine sorti, par réflexe, Cécile Hassanomabris branche ce compteur GGR et qui se met à vibrer comme un fou. Parce qu'il est à combien là, Cécile ?
1,16.
1,16 microsieverts par heure. C'est-à-dire, c'est là où il n'est pas content déjà, quoi.
C'est assez élevé.
Et ça, c'est sur le parking de TEPCO, fraîchement inauguré, à la gloire des efforts consentis, des budgets de plusieurs milliards. Alors, les estimations sont autour de 50 milliards d'euros dépensés pour décontaminer et revitaliser la région, c'est-à-dire que les gens y retournent et que la vie normale y reprenne. Sachant que, voilà, 10 km d'ici, le corium des réacteurs en fusion est toujours inaccessible.
La centrale de Fukushima n'est qu'à 6 km.
Aujourd'hui, seuls 10% de la population est revenue. D'où ces images de villes fantômes.
La peur est toujours là et très peu de volontaires acceptent de revenir.
Et le gouvernement souhaite que les habitants aient regagné leur maison d'ici 2020, et ce, quel que soit le niveau de radiation.
On est en haut de la colline, là où se trouve le vieux cimetière du village, 10 km au sud de réacteur de Fukushima Daiichi. C'est la fin de journée, alors il y a un petit soleil rasant qui n'est pas désagréable. Et il y a une petite dame là qui promène son chien. Bonjour madame.
Je m'appelle Akutsuki Moko.
C'est une dame toute mignonne avec son bonnet, son masque, son écharpe et qui promène son chien.
Donc, de
toute façon, ici, il n'y a personne qui vit. Toute la population de Tomioka vit très très loin d'ici.
Là, vous étiez allé vous recueillir au cimetière un moment avec votre petit chien, là ?
Oui,
je suis venu prendre des photos d'une tombe qu'on a rénovée.
Parce que vous, vous avez été évacué et vous êtes revenu ?
Ça fait 3 ans que nous sommes rentrés.
Et là, on entend au loin le chantier, les travaux. Ça n'arrête pas. Toute la région est couverte de pelleteuses en train de retourner la terre ou d'éparpiller la terre, de faire des digues.
Tout a été détruit. Ils ont absolument tout détruit de ce qui restait, même des maisons dans lesquelles on pouvait encore habiter. Il n'y a plus rien qui reste du paysage original. En fait, le paysage tel qu'on avait avant, il n'est plus là. Et comme personne ne rentre, eh bien finalement, ils ont décidé de détruire toutes les maisons.
C'est comme si la vie avait déserté toute cette région, qu'on le veuille ou non.
Oui, je pense effectivement qu'on peut exprimer ça comme ça.
Et ils ont tout détruit à cause de tsunami ou à cause de la radioactivité ?
Pour vous dire la vérité, c'est en raison des conséquences du nucléaire ici.
Parce que là, pendant qu'on parle, dans ma poche, il y a quelque chose qui n'arrête pas de vibrer. C'est le compteur GGR, encore une fois, qui est là, est à 0,47 ici. C'est pas excessif, mais c'est quand même plus élevé.
Moi, en fait, je suis âgée, donc la radioactivité, j'en ai plus tellement peur, mais tout le monde a encore une anxiété assez grande vis-à-vis de ça. Et donc, les familles avec enfants, nos enfants ne reviennent pas, ont pris la décision de ne pas revenir. Donc, ça fait plein de maisons vides, et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de détruire toutes ces maisons restées vides.
Est-ce qu'il faut faire confiance, vous pensez, aux autorités qui nous disent que tout est en train de rentrer dans l'ordre, un peu encore un peu de patience et on pourra tourner cette page ?
Plus que la confiance, c'est le doute qui s'est installé ici.
Elle est très mignonne parce que la petite dame, elle a pris son chien, qui est un de ses chiens japonais, là, dans les bras. Elle le tient comme son bébé, et le chien qui est tout blotti contre elle.
En fait, il n'y a pas de solution qui soit possible, qui soit exprimable, envisageable.
Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
On voit la côte, là, qui est en train d'être, au fur et à mesure, masquée derrière des digues toujours plus hautes. Et de l'autre côté, c'est les montagnes vertes, 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 couvertes de forêts.
Quand on dit qu'on pourrait décontaminer les forêts, ça veut simplement dire qu'on peut tout arracher et qu'on peut enlever les 5 cm de terre qui contiennent l'humus. Ils font d'une forêt qu'elle est forêt, donc on ne le fait pas. Donc les 3/4 du paysage que vous voyez là est contaminé.
The decommissioning process is expected to take 30 to 40 years.
Le gouvernement japonais estime qu'il faudra entre 30 et 40 ans pour assainir les 600 km² contaminés par la catastrophe.
Je reviens du monde d'avant.
Il n'a rien oublié du 11 mars 2011.
Le 11 mars 2011, Naoto Kan est alors premier ministre du Japon.
Nous voilà dans les couloirs du Parlement japonais. Tokyo, et c'est des grands bâtiments modernes avec des couloirs à perte de vue, parce qu'on a rendez-vous avec un ancien Premier ministre.
La catastrophe va faire de lui un fervent anti-nucléaire.
Naoto Kan, voilà, son bureau.
Depuis, il plaide aux quatre coins du monde pour la fin du nucléaire et le développement des renouvelables.
Sur France Inter.
My nuclear nightmare, mon cauchemar nucléaire. Merci de nous recevoir. Monsieur Kan, c'est vous qui étiez à la tête du Japon au moment de la catastrophe.
Avant la catastrophe, il y avait ce mythe de la sécurité nucléaire et c'était un mythe auquel je croyais. Quand j'étais Premier ministre, nous avions un plan de faire passer la part du nucléaire dans le mix énergétique de 30% à 50%. Et c'est un plan que j'ai signé moi-même.
Mais simplement depuis, il s'est passé le titre de votre livre qui raconte comment vous avez vécu cette expérience, « Mon cauchemar nucléaire ».
Une semaine après l'accident de Fukushima, j'ai demandé au chef de l'agence de sûreté nucléaire de faire une simulation sur quel périmètre il faudrait évacuer la population. Et c'est là que j'ai reçu cette simulation qui montrait une évacuation sur un périmètre de 250 km autour de la centrale.
La mégapole de Tokyo, comprise dedans.
Sur ces bases-là, il aurait fallu évacuer environ 50 millions de Japonais sur une population totale d'environ 120 millions.
40% de la population.
Oui, donc une évacuation sur une telle échelle, ça aurait voulu dire que le Japon, pour des dizaines d'années, aurait cessé de fonctionner en tant que pays. Ça aurait été comme le résultat d'une guerre.
Le 15
mars, le président de TEPCO m'a dit qu'ils avaient fait de leur mieux, mais que la situation était devenue trop dangereuse sur le site et m'a fait part de leur intention d'évacuer leur personnel de la centrale.
C'est-à-dire de déserter les lieux et de laisser la catastrophe nucléaire se poursuivre.
Maintenant, en tant que Premier ministre, je savais que si une telle évacuation avait lieu, l'accident allait continuer à prendre de l'ampleur et pourrait même dépasser ce pire des scénarios qu'on m'avait présenté. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que Premier ministre, j'ai demandé avec beaucoup de fermeté au président de TEPCO que cette évacuation n'ait pas lieu. Le président de TEPCO et moi-même, nous avions plus de 60 ans. Et je pensais que c'était aux gens de notre génération d'aller au front. Et je leur ai donc demandé de se mobiliser et d'aller au front, même s'ils devaient mettre leur vie en jeu.
Monsieur Naoto Kan, comment et pourquoi vous avez basculé dans l'opposition au nucléaire civil ?
Avec cet accident, le Japon n'a pas littéralement coulé, mais j'ai compris qu'un accident nucléaire risquait de rendre le Japon invivable. Et c'est ça qui m'a fait littéralement faire un 180 degrés et changer complètement d'opinion sur l'énergie nucléaire.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous courez un peu les scènes internationales pour vraiment prêcher.
Oui, je suis invité par des organisations antinucléaires un peu partout dans le monde, et notamment en France. C'est là que je viens leur expliquer, leur parler de l'accident de Fukushima, les dangers que pose l'industrie nucléaire au niveau d'un pays, et qu'un accident tel que Fukushima, ou encore plus grave que Fukushima, pourrait arriver.
Et justement, Monsieur le Premier ministre, la France, elle, continue à être le champion mondial du nucléaire, continue à promouvoir et à essayer de vendre ses centrales de troisième génération. Et la France dépend du nucléaire pour son mix énergétique.
Mais je vais vous dire directement ma conclusion, qui est basée sur des propos qui ont été tenus par le chef de l'Agence de sécurité nucléaire américaine. On ne sait pas ni où ni quand un accident nucléaire va arriver, mais il va arriver. C'est garanti qu'à un moment donné, il va y avoir un accident. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas construire des centrales nucléaires dans des zones où des populations civiles pourraient être touchées. Et c'est ma conclusion, c'est que ni au Japon, ni en France, il faut construire des centrales nucléaires. C'est impossible de tourner la page sur l'accident de Fukushima.
Peut-on s'habituer à vivre avec un détecteur de radioactivité dans un paysage contaminé ? Voilà sans doute pourquoi la société TEPCO, responsable de la centrale, parle maintenant de revitalisation de la zone plutôt que de retour. C'est parce qu'il a bien fallu admettre que les habitants d'origine n'y retourneraient tout simplement pas. Un grand merci à Miguel Quintana pour la traduction et à notre guide Cécile Asano-Mabris du CNRS Tokyo, dont vous pourrez retrouver le blog sur le site de l'émission, ainsi que les références de son dernier livre « Un siècle de banlieue japonaise au paroxysme de la société de consommation » paru aux éditions Métis Press. Et on retournera bientôt au Japon avec ces lancinantes questions qui taraudent les Japonais, puisque les 6 et 9 août prochains, on célébrera le 75e anniversaire des bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. C'était Je reviens du monde d'avant et bien content d'être de retour au présent. Un grand merci à Clément Baudet qui a réalisé cette émission et Ludovic Asselot qui l'a mixé. Je vous donne rendez-vous samedi et dimanche prochain à 17h pour une nouvelle étape de notre journal de bord d'un monde qui fond au Brésil, mais loin de la forêt amazonienne où nous étions mi-juillet. Cette fois, nous allons entre Rio et Brumadinho, à la rencontre de celles et ceux qui luttent pour un autre modèle et qui vont jusqu'à faire pousser du bio au cœur des favelas de Rio.